que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Mais vous fumez, monsieur.
Vous êtes des enfants de bourgeois.
Be proud of you, because you can be do what we want to do.
Les dessous de la cité, l'actu politique sans cravate, les troisièmes mercredis du mois, de 19h à 20h, sur le 103 FM de Radio Campus Angers.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Dessous de la Cité, l'actualité politique sans cravate. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre émission portera sur le procès Extinction Rébellion qui s'est ouvert la semaine dernière à Angers. Pour commencer, on va ouvrir l'émission avec trois chroniques avant de poser un peu les bases de contexte. La première sera consacrée à la présentation de l'association Extinction Rébellion, son origine et ses objectifs. La deuxième reviendra sur les faits reprochés aux militants et le déroulement du procès. Enfin, la troisième s'intéressera au soutien apporté aux militants, notamment à travers les rassemblements et les mobilisations organisées en marge de l'Obiance. Ensuite, nous ouvrirons un débat autour du militantisme écologique. On va se demander si les actions radicales sont nécessaires pour alerter sur l'urgence climatique, ou si elles peuvent au contraire desservir la cause qu'elles défendent. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir un étudiant en école de commerce qui viendra nous donner un peu plus d'informations sur la responsabilité des entreprises et sur leur impact écologique. Enfin, on conclura notre émission avec notre chronique Le mot de la fin, consacrée à une notion très présente en ce début d'année 2026 dans l'actualité internationale, l'ingérence. L'objectif, ce sera de clarifier ce terme, souvent utilisé mais qui reste un peu flou. Voilà donc pour ce programme plutôt chargé, restez avec nous.
Les dessous de la cité, l'actu politique sans cravate, sur le 103 FM.
Donc, avant de parler de procès ou même de controverse, on a trouvé nécessaire de présenter déjà l'association en elle-même, Extinction Rébellion, d'où vient ce mouvement et surtout, qu'est-ce qu'il recherche à défendre en fait. Extinction Rébellion, elle naît en 2018 au Royaume-Uni, dans un contexte d'angoisse climatique grandissante. Selon ses fondateurs, nous ne faisons pas face à une crise environnementale parmi tant d'autres, mais à une menace qui est vraiment existentielle. Leur slogan résume bien cette idée, nous sommes en train de disparaître. D'ailleurs, le mot extinction, dans leur titre, n'a pas été choisi au hasard. Il désigne l'extinction des espèces, mais aussi, à plus grande échelle, celle de la condition humaine. Très vite, le mouvement il se développe à l'international, notamment en France, et Extinction Rébellion ne se définit plus comme une ONG traditionnelle ou même comme un parti politique, mais vraiment comme un mouvement citoyen. Il est ouvert, il a une organisation horizontale, c'est-à-dire sans leader unique. Il repose sur des groupes sociaux locaux, autonomes, composés de citoyens qu'on pourrait dire ordinaires, des étudiants comme nous, des salariés, des retraités, des parents, etc. Le mouvement y revendique d'ailleurs une idée très forte et je les cite, « Ce ne sont pas des experts qui doivent sauver le monde, mais les citoyens ». Le but central d'Extinction Rébellion, c'est d'alerter. Alerter sur l'ampleur réelle de la crise écologique, qu'ils estiment volontairement minimisée par les responsables politiques, mais aussi alerter sur la crise écologique en elle-même et son impact grandissant sur les sociétés. Je les cite sur leur site officiel, ils parlent d'un échec criminel des gouvernements à protéger leur population. Le mouvement y formule alors un objectif clair. D'abord, ils appellent à dire la vérité, c'est-à-dire reconnaître publiquement l'urgence climatique et écologique sans euphémisme ni discours rassurant. Ensuite, agir immédiatement pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et stopper la destruction des écosystèmes. Enfin, Extinction Rébellion défend une idée centrale, la crise écologique est aussi une crise démocratique. Il réclame donc une plus grande implication des citoyens dans les décisions et demande notamment des assemblées citoyennes qui pourraient être tirées au sort, comme on retrouve par exemple déjà dans la politique en Suède, par exemple. En résumé, Extinction Rebellion se présente comme un mouvement d'alerte et de rupture. Rupture avec le rythme lent des décisions politiques, rupture avec les discours rassurants, rupture avec l'idée que le temps jouerait en notre faveur. Et c'est cette volonté d'urgence et cette radicalité assumée dans le constat qui explique leur visibilité et leur influence. Enzo, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les faits de novembre 2024 qui ont précédé la plainte ?
D'abord, salut à toutes et à tous. Très content de vous retrouver en ce début d'année. Et donc, effectivement, comme Avril l'a évoqué juste avant, on va essayer d'en savoir plus sur ce procès qui s'est ouvert la semaine dernière à Angers. L'objectif est de comprendre quels sont les faits qui sont reprochés aux militants d'Extinction Rebellion et pourquoi ce procès fait débat. Donc, tout commence vraiment dans la nuit du 21 au 22 novembre 2024 dans le centre-ville d'Angers. Une trentaine de militants d'Extinction Rebellion lancent l'opération Nuit Blanche et en quelques heures, ils neutralisent près de 500 panneaux publicitaires. Donc, il n'y a pas de casse, mais les militants ouvrent simplement les panneaux publicitaires pour enlever les affichages et les remplacent parfois par le slogan « On n'en peut plus ».
Mais pourquoi s'acharner autant sur ces panneaux ?
Eh bien, c'est assez simple en fait. Un écran numérique consomme en moyenne 13 fois plus d'électricité qu'un panneau classique. Un seul de ces écrans peut pomper autant d'énergie que 3 familles sur une année. Donc c'est assez conséquent. Sans compter la pollution lumineuse, cette lumière artificielle la nuit, c'est un piège mortel pour tous les insectes pollinisateurs et un perturbateur majeur pour les oiseaux migrateurs. C'est ce que les militants appellent le rapt du regard. On nous impose en fait des besoins dont on n'a pas réellement envie, tout en gaspillant de l'énergie en pleine crise climatique. La date de l'action, elle n'est pas non plus une simple coïncidence, puisque leur but était aussi d'essayer d'agir pour limiter les effets de surconsommation du Black Friday qui débutait une semaine plus tard. Et pour bien comprendre la tension actuelle à Angers, il faut aussi regarder ce qui s'est passé en juin dernier. Des militants d'Extinction Rebellion se sont rendus chez un concessionnaire automobile pour dénoncer l'achat des SUV. Donc pour ceux qui connaisseraient en voiture, concrètement un SUV en fait c'est comme un petit 4x4 quoi. Pour justement dénoncer ces achats, ils ont été tagués autour de la concession les slogans le SUV tue ou le SUV pollue. L'idée des militants ici c'était donc de dissuader les potentiels acheteurs de ces véhicules car selon eux ils incarnent l'absurdité, ils sont plus lourds, plus haut, ils émettent beaucoup plus de CO2 qu'une voiture standard et nécessitent beaucoup plus de ressources, surtout pour leur construction. En ville, c'est aussi un danger public. Statistiquement, un choc avec un SUV est bien plus souvent mortel pour un piéton ou un cycliste à cause de sa masse. Dans cette affaire, 4 militants ont été identifiés et le 17 décembre dernier, ils ont été condamnés par la justice. La facture est élevée puisque leurs actions leur ont coûté au final un total de 2 900 euros. C'est donc sans doute une manière de décourager tous ceux qui voudraient s'attaquer au secteur automobile. Cependant, le gros morceau, ça reste le procès qui s'est tenu la semaine dernière, donc le 15 janvier 2026, au tribunal correctionnel d'Angers. Donc 3 militants étaient à la barre suite à la plainte de la multinationale JC Deco, spécialisée dans la publicité urbaine. Les militants d'Extinction Rebellion sont accusés de soustraction frauduleuse en réunion. En fait, pour faire simple, on les accuse d'avoir volé en groupe les affiches publicitaires. C'est là que ça devient intéressant, puisque l'enjeu de ce procès, en fait, il n'est pas tant de savoir au final si ils ont pris les affiches, puisque les militants l'assument totalement, mais en fait, c'est de savoir si cet acte, c'est un crime ou un acte de liberté d'expression face à l'urgence climatique. Les avocats parlent souvent d'état de nécessité, donc c'est en fait un argument juridique qui justifierait une infraction si elle permet d'éviter un péril plus grave, donc ici le dérèglement climatique dopé par la surconsommation. Le verdict, il n'est pas encore tombé, mais ça pose une vraie question, c'est donc jusqu'où la désobéissance civile est-elle acceptable pour faire passer un message ?
Merci beaucoup Enzo, et puis la semaine dernière avec le procès on a vu pas mal de réactions à Angers. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie mobilisation autour des militants, Louise ?
Eh bien oui, clairement, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, ça s'est pas arrêté au mur du tribunal. Dès le jour de l'audience, des soutiens se sont rassemblés place Leclerc devant le palais de justice d'Angers, et des membres d'Extinction Rébellion, mais aussi des citoyens, des étudiants, des personnes engagées dans des collectifs écologistes ou anti-pub par exemple. C'était une mobilisation pacifique, assez calme, voire presque silencieuse, mais pourtant très symbolique. On a d'ailleurs pu observer les accusés s'approcher du palais de justice en marchant sur des affiches publicitaires en guise de symbole de leurs revendications. Ce qui est intéressant, c'est que ce rassemblement ne cherchait pas à créer un rapport de force violent, il servait surtout à dire « ces personnes ne sont pas seules ». Derrière les trois prévenus, il y a un collectif, une idée et un combat plus large. Dans la salle d'audience, la présence des soutiens était aussi importante. Beaucoup sont venus assister au procès, parfois en restant très discrets, avec juste des signes visuels comme le fait de porter du vert, qui est la couleur d'Extinction Rébellion et du mouvement écologiste plus largement. C'est une manière de rappeler que ce procès ne concerne pas seulement des individus, mais un vrai mouvement dans sa globalité. Et puis, il y a un soutien plus concret. Une cagnotte a été lancée pour aider les prévenus à financer les frais d'avocat et les éventuelles sanctions. Celle-ci s'élèverait aujourd'hui à plus de 1100 euros. Là encore, ça montre que ce procès est perçu comme une affaire collective et presque politique.
Justement, là, tu parles de quelque chose de politique. Et en quoi ces soutiens, ils dépassent le simple cadre du procès ?
Eh bien, en fait, parce qu'en réalité, ce que disent ces rassemblements, c'est pas seulement on soutient trois personnes, mais c'est aussi on soutient une manière de faire de la politique et de militer. Extinction Rébellion défend l'idée que quand les institutions avancent trop lentement face à l'urgence climatique, la désobéissance civile devient une forme d'engagement politique légitime. Cette logique, elle est souvent reprise dans plusieurs combats et elle a été très utile dans certaines luttes, comme pour les droits des femmes notamment. Les soutiens de l'affaire Extinction Rébellion reprennent donc ce raisonnement. Pour eux, ce procès montre un décalage entre la gravité de la crise écologique et la façon dont la justice traite ceux qui tentent de l'alerter. Il y a donc deux visions de la politique qui s'opposent ici, avec une politique institutionnelle d'un côté basée sur la loi, les procédures, les règles, et de l'autre, une politique citoyenne fondée sur l'urgence, la morale et la responsabilité civile. C'est très vulgarisé, mais on pourrait dire que le tribunal il va juger une infraction, alors que les soutiens ils parlent de créer un signal d'alarme. Ce qui est frappant aussi, c'est que la manière dont ce procès devient un outil de la manière dont ce procès devient un outil de mobilisation. Sur les réseaux sociaux, on voit que de nombreux messages de soutien ont circulé, avec la rhétorique très forte du, je cite, « je préfère être sur le banc des accusés que complice de l'inaction ». Ça, c'est le titre d'un article que Libération a fait à ce sujet. Cette phrase, elle résume bien l'état d'esprit. Pour eux, il vaut mieux risquer une condamnation que de rester passif face à une crise qu'ils jugent existentielle. Politiquement, c'est intéressant parce que ça inverse les rôles traditionnels. Habituellement, quand on est poursuivi en justice, c'est pour quelque chose de négatif ou de honteux. Et là, au contraire, le procès devient un symbole presque d'engagement. On passe donc de « ils ont enfreint la loi » à « ils ont agi parce que la loi ne suffit plus ». Ce soutien révèle aussi quelque chose de plus large dans la société. On sent une fatigue face au discours politique classique sur l'écologie, avec les promesses, les objectifs à 2050-2030 et les petits pas. Pour une partie de la population, ces discours ne sont plus crédibles. Et Extinction Rébellion capte ici ce sentiment, avec l'idée que la crise est là maintenant et que les réponses institutionnelles arrivent trop lentement et trop tard. Les rassemblements à Angers sont donc une traduction locale d'un débat qui est national aujourd'hui, voire même mondial. Jusqu'où on peut aller pour défendre une cause qui est jugée vitale et à partir de quand la désobéissance devient-elle une forme d'engagement politique acceptable ?
Et est-ce que tu dirais que ce genre de procès, ça renforce le mouvement plutôt que de l'affaiblir au final ?
Bah oui, paradoxalement, assez souvent, parce que pour Extinction Rébellion, un procès, c'est pas seulement une sanction, mais c'est aussi une vitrine de leur mouvement. Ça attire l'attention, ça oblige à parler du fond du problème, la publicité, la surconsommation, le modèle économique, l'urgence climatique. Et ça, les soutiens, ils l'ont bien compris. Donc en se mobilisant, ils transforment ce procès en moment politique et ils déplacent la question de « est-ce que l'action était légale ?» vers « est-ce que l'inaction actuelle est acceptable ?» Et ça, c'est un vrai renversement de perspective qu'on peut souligner ce soir.
Eh bien, merci à tous les deux pour ces éclaircissements. À présent, on écoute Get Up, Stand Up de Bob Marley. Et Baptiste, je vais te laisser un peu nous expliquer pourquoi tu as choisi cette musique.
Alors, on a choisi ce titre car il encourage les gens à se lever, à défendre leurs droits, justement, Get Up, Stand Up, se lever, et à ne pas rester passif face à l'autorité. Alors, dans le cadre de cette chanson, elle s'inscrit dans un contexte de reggae engagé qui a été inspiré par les inégalités en Jamaïque et dans le monde.
Les dessous de la cité, l'actu politique sans cravate, sur Radio Campus Angers.
Vous écoutez Les Dessous de la Cité. Alors, on s'est intéressé aux violentes manifestations qui ont été causées par le procès opposant les membres de l'association écologiste Extinction Rébellion à l'entreprise JC Déco. Et ça nous amène maintenant à ouvrir le débat sur la question du militantisme écologique qui parfois est poussé, on peut le dire, à l'extrême. On peut se demander si l'action militante, parfois, elle joue pas en la défaveur de leur propre cause. Donc on peut déjà, je pense, rappeler certains cas d'actions militantes qui ont choqué l'opinion publique ces dernières années. Moi, par exemple, je pense à janvier 2024 dernier, où on a des militants qui ont carrément aspergé la Joconde de soupe. Enfin, c'est quand même un sacré mode de mobilisation, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me suis toujours un peu demandé quel était le principe d'opposer l'art et la question écologique.
Ouais, bah, je pense du coup que... Enfin, d'ailleurs, je crois qu'Avril, ce système-là de dégrader des œuvres dans des musées, dans des lieux très fréquentés, ça a été observé plusieurs fois, pas qu'avec la Joconde. Mais je pense que la volonté derrière, c'est vraiment de faire choc pour être entendu par les citoyens, et donc que ça remonte à des grandes instances comme le musée du Louvre, Paris, je sais pas.
Après, je comprends cette volonté de mettre en lumière la cause, parce que forcément, c'est un peu une action choc, on le voit dans les médias, on le voit partout, on en parle. Donc je comprends, mais d'un autre côté, je sais pas si ça donne pas en fait une mauvaise image de l'action militante. Est-ce que les gens vraiment ils se disent « Ah, on a entendu parler de l'écologie, c'est vrai que ça donne envie d'œuvrer pour la planète quand on voit des gens qui saccagent des œuvres qui existent depuis des centaines de millions d'années ?»
Ouais, moi je pense que en fait, au-delà de l'action en elle-même, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a un peu l'idée certains peuvent beaucoup mettre en avant sur les réseaux que, au final, limite un bad buzz, ça reste quand même un buzz. Ouais. Et que, en fait, même en faisant un truc qui va un peu à l'encontre de ce que les citoyens pensent correct, quoi.
Ça fait toujours parler de la conscience.
Ouais, c'est ça, ça marque. Et dans l'eau, je pense qu'ils arrivent sans doute à quand même récupérer des militants,
Surtout que ça a l'air relativement réfléchi la plupart du temps. Après, je sais pas pour toutes les situations, mais pour la Joconde, on sait qu'elle est protégée par des dizaines de verres devant. Donc en soi, c'est plus du choc qu'une vraie action qui a un effet. Pour le coup, ça aurait été vraiment très très dommage comme de gâcher la Joconde. Là, je pense que c'est vraiment juste pour le message, même si il y a d'autres façons de le faire, évidemment.
Bah ouais, c'est ça, justement. Enfin, j'ai vu aussi d'autres actions. Il y avait l'association Dernière Rénovation qui faisait jusqu'à... Je crois que c'est ça, ils ont arrêté leurs actions il y a 2 ans à peu près, mais qui utilisait des actions qu'on peut appeler coup de poing. Ils bloquaient les périphes parisiens en s'asseyant, en bloquant les routes, des banderoles, et parfois ils se gluaient les mains au sol et
je
tout.
Vois très bien.
C'est ça, des actions qui veulent marquer, mais je suis d'accord. Enfin, parfois, on peut se demander si ça va pas juste dévaloriser la cause.
C'est surtout qu'en plus, quand on voit qu'ils ont arrêté au final depuis 2 ans, tu te dis que ça se trouve, ça marche pas tant, quoi, ce mode d'action-là.
Mais je pense qu'en plus, le problème, c'est que autant, justement, dans une action choc, par exemple, sur la Joconde ou quoi, au final, il n'y a pas eu de dégâts en soi, alors que là, bloquer les routes, ça peut vraiment... impacter des familles en cas d'urgence ou quoi, ça pose d'autres problèmes. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont sans doute arrêtés. C'est qu'il n'y a pas juste une question de marquer les esprits. Ça impacte la vie de nombreuses personnes qui ne sont pas concernées forcément.
Moi, j'y vois un peu une sorte de détresse, quoi. Dans un premier temps, ils font la Joconde parce que c'est juste un impact, c'est juste du choc. Et après, ils passent aux autoroutes où là, ça impacte directement les gens. Malgré ça, le fait de voir que rien ne se passe au niveau des États, je pense qu'ils ont peut-être abandonné. Parce que la Joconde, c'est une première chose, plutôt soft. Tu passes à du plus dur, ils vont pas tuer des gens pour que l'État les écoute, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et puis, moi, ça me fait dire aussi que... Est-ce que c'est pas un peu injuste de s'en prendre aux citoyens alors qu'en soi, on sait que c'est pas les responsables du choc écologique, quoi.
Je pense qu'après, ça reste une solution de dernier recours et faut pas oublier quand même que... Heureusement qu'ils sont là de temps en temps. Enfin, c'est comme, par exemple... au moment des manifestations autour des méga-bassines à Sainte-Soline. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle rapidement, en gros, les méga-bassines, c'est des réservoirs d'eau artificielle qui permettent de récupérer de l'eau pendant l'hiver,
ouais.
Afin de l'utiliser en été quand c'est la sécheresse. Et donc, il y avait eu beaucoup de militants qui s'étaient opposés à justement une méga bassine à Sainte-Soline. Donc, c'est énorme, hein, ça représente 10 terrains de football, je crois, en termes de volume. Et donc, justement, c'était un peu un cas de. Enfin, c'était clairement un cas de désobéissance civile, mais au final, on voit que ça avait un réel intérêt. Et bon, il y a eu énormément de répression, alors qu'au final, fin 2024, je crois, le tribunal a décidé, enfin, la justice a décidé que. La méga bassine de Sainte-Soline était illégale. Donc,
Ça a eu un réel impact au final.
Donc ça a eu un réel impact parce qu'il y a eu une grosse répression sur les manifestants qui, au final, avaient raison, ouais. Puisque ça avait vraiment des impacts sur des impacts écologiques hyper néfastes. Quoi.
Et en même temps, on peut aussi se demander, pour revenir un peu aussi à l'idée du procès en général, parce que là, c'est vrai qu'on s'en prend au travers de ce procès aux militants qui ont arraché les publicités, etc. Et c'est sûr que ça pose problème. Enfin, je comprends, j'essaie d'écrire d'un côté.
Ouais.
Mais on peut aussi se demander quel on est de cette responsabilité des entreprises. On est dans une société où on a de la surconsommation, de la surproduction. Et donc, justement, quel est le rôle des entreprises dans tout ça pour ne pas avoir un impact écologique trop important. Je rappelle que lors de ce débat, on accueille Baptiste qui est étudiant en école de commerce. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la question des entreprises et de leurs impacts?
Oui, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a un terme qui est beaucoup utilisé, c'est le terme de la RSE. Donc c'est, pour un peu avoir la définition, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Donc quand on parle de cette responsabilité des entreprises, on ne parle pas d'une seule chose, mais de plusieurs responsabilités qui se superposent. Donc d'abord, il y a la responsabilité qui est dite morale. Donc ça signifie que l'entreprise, elle est invitée à se poser la question de ce qui est juste au-delà d'un simple respect de la loi. Concrètement, ça concerne le respect des salariés, des droits humains, de l'environnement ou encore l'honnêteté vis-à-vis des clients et des partenaires. Ensuite, il y a la responsabilité économique. Donc on sait qu'une entreprise, elle doit être rentable pour exister, mais elle est aussi responsable de la manière dont elle gagne son argent. Donc par exemple... en soi, la dynamique RSE a cherché à éviter de faire des économies qui pourraient, des économies dans l'entreprise qui pourraient dégrader les conditions de travail des gens qui travaillent dans l'entreprise, ou alors investir dans des outils moins polluants, ou même, privilégier une stratégie viable sur le long terme plutôt qu'un profit immédiat. Il y a aussi une responsabilité qui est juridique, donc qui elle est de plus en plus importante depuis que le terme RSE est arrivé. Donc il y a les entreprises qui doivent respecter des obligations légales précises en matière sociale, comme le respect du droit du travail et de la sécurité des salariés. En matière environnementale, c'est comme les normes. Les normes sur les émissions polluantes ou alors la gestion des déchets. Et en matière de transparence, avec l'obligation pour certaines entreprises de publier des informations sur leurs impacts sociaux et environnementaux. C'est là où justement, à chaque fin d'année, la plupart des entreprises publient leur bilan RSE. Enfin, du coup, il y a une dernière couche de responsabilité, c'est la responsabilité sociétale au sens large. Donc l'entreprise, elle est considérée comme un acteur de la société dont les décisions ont des effets sur les territoires, les citoyens et l'environnement. Donc si je voulais résumer un petit peu ma réponse, je sais qu'elle est un peu longue, la responsabilité d'entreprise, elle recouvre à la fois une dimension morale, économique, juridique et sociale. Donc la RSE correspond précisément à cette vision élargie du rôle de l'entreprise dans la société. Évidemment, même si le cadre légal tend à évoluer, on parle bien de responsabilité et non pas d'obligation.
Et est-ce que ces engagements, aujourd'hui, sont toujours sincères ou est-ce que parfois ça peut être ce qu'on appelle du greenwashing?
Ah oui, totalement, oui. Ces engagements, ils ne sont pas toujours sincères. Forcément, lorsqu'il repose sur des actions concrètes, comme investir sur le long terme, la formation des outils moins polluants ou respecter des règles sociales, là, on est dans une démarche réelle de responsabilité quant à la lutte pour la cause écologique. Évidemment, bien sûr, même dans les démarches concrètes, il est arrivé que des actions dites écologiques aient été faites tout à fait en étant du greenwashing, telles que les pubs qui cherchent à bonifier l'image d'une entreprise X à travers la mise en avant de bonnes actions écologiques qui ne sont même pas forcément réalisées au sein de ces dernières. On peut également citer, j'aime bien l'exemple de l'arnaque au marché des quotas carbone qui a été illustré dans la super série que je vous recommande d'Argent et de Sang, où des centaines d'entreprises dites bidons ont été créées uniquement pour profiter d'un dispositif présenté comme écologique. Ces sociétés, en fait, elles achetaient des quotas carbone à l'étranger sans la TVA, puis les revendaient en France avec de TVA. Et c'est une TVA qui n'était jamais reversée à l'État, bien sûr. Donc c'est cette fraude, ce que je veux illustrer, c'est que cette fraude, elle a permis de détourner des milliards d'euros sans aucune réduction réelle des émissions de CO2. Donc ça montre que certains mécanismes affichés comme écologiques peuvent en réalité servir à des intérêts totalement financiers, ce qui illustre parfaitement le phénomène de greenwashing. En revanche, également aussi quand une entreprise se contente d'un discours ou de quelques actions symboliques sans changer les pratiques de fond, on parle également de greenwashing. Ouais.
On voit qu'on est toujours un peu à la course à la rentabilité avec les entreprises et c'est ce qui pose un peu problème. Et c'est ce que le procès et les manifestations actuelles mettent en avant en fait. Donc merci à tous, on va pouvoir clôturer ce débat. On va écouter Merci, Merci Me. Donc Baptiste, vas-y, je te laisse présenter ta petite musique.
Merci de m'avoir laissé choisir déjà. Donc c'est Merci, Merci Me, entre parenthèses, The Ecology, donc métaphore où Marvin Gaye illustre sa personne à travers la nature et l'écologie. Donc ce titre qui est issu de l'excellent album What's Going On, il dénonce la pollution et la destruction de la nature et le changement climatique. La chanson, elle exprime la tristesse face aux dommages causés à la Terre par l'activité humaine.
Parfait, c'est totalement dans notre sujet, merci.
Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be now. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Thank you.
Les Dessous de la Cité. L'actu politique sans cravate sur le 103 FM.
Vous écoutez Les Dessous de la Cité, alors on vient de parler de militantisme écologique. Je vous invite d'ailleurs à aller nous écouter en replay si vous n'avez pas pu suivre le début d'émission. On est disponible sur Spotify. Donc en tout cas maintenant on passe à la dernière partie de notre émission, la chronique, le mot de la fin, dans laquelle on s'applique à vulgariser un mot, une notion de l'actualité politique. Aujourd'hui, avec l'équipe, on a décidé de traiter de l'ingérence qui, je pense, vous l'avez vu, est au cœur de l'actualité internationale. Donc l'ingérence, pour vous le décrire, pour vous le définir avec des termes assez simples, c'est quand un pays se mêle des affaires internes d'un autre pays, alors qu'il n'y a pas été invité. Normalement, chaque pays est souverain. Ça veut dire qu'il est censé décider seul de sa politique, de son gouvernement, de ses lois, de son avenir en gros. L'ingérence, c'est donc le fait de franchir cette limite et d'intervenir à la place d'un autre. Cette intervention, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être politique, par exemple, quand un État soutient ouvertement un camp contre un autre dans un pays étranger. Elle peut être économique, avec des sanctions, des pressions financières, des menaces commerciales. Et elle peut aussi être militaire, avec une intervention armée, ou même d'ailleurs plus discrète, à travers, je sais pas, l'influence médiatique ou l'ingérence électorale. Souvent, l'ingérence est justifiée par de bonnes intentions, du moins de bonnes intentions affichées. Ça peut être défendre la démocratie pour protéger les droits humains en temps de guerre par exemple, ou dans un régime autoritaire pour assurer la sécurité internationale ou même des citoyens résidant dans le pays en question. Mais le problème, c'est que derrière ces discours, il y a parfois des intérêts qui sont beaucoup plus stratégiques, économiques ou même encore géopolitiques. C'est pour ça que l'ingérence, c'est un mot qu'on peut dire très chargé politiquement. Pour certains, elle va être vue comme une aide ou une protection, alors que pour d'autres, en fait, elle est perçue comme une domination, voire une forme de néocolonialisme. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut toujours rappeler que l'ingérence, ça reste quelque chose qui est interdit dans le droit international, et donc un pays, qu'il ait des actions qui soient sincères, des volontés sincères dans son intervention, ça n'empêche pas que ça reste illégal.
Donc on a parlé de ce que c'est l'ingérence, c'est donc pour rappeler rapidement ce qu'a dit Avril, c'est quand un pays intervient dans les affaires d'un autre alors qu'il n'y a pas été invité, ça peut être donc économique, politique, diplomatique ou militaire. Et pour comprendre ce que ça signifie dans la réalité, il suffit de regarder l'actualité. Prenons l'exemple très actuel du Venezuela. Début janvier 2026, les États-Unis ont mené une opération militaire qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro, officiellement pour lutter contre le narcotrafic et l'instabilité. Cette action a suscité une vague de critiques internationales, certains dénonçant une violation de la souveraineté vénézuélienne et du droit international, comme l'a dit Avril. Même au Conseil de sécurité de l'ONU, plusieurs pays ont rappelé que le Venezuela est un État souverain et qu'on ne peut pas décider à sa place. La vice-présidente vénézuélienne a elle-même déclaré que le pays ne sera la colonie d'aucun pays, soulignant combien cette intervention touche au droit d'un peuple à choisir son avenir. Cet exemple montre une ingérence qui est donc directe et visible. On voit les troupes, les arrestations, les tensions diplomatiques et l'impact sur la population qui est immédiat. Mais l'ingérence, elle ne se manifeste pas toujours de façon aussi brutale. Parfois, elle est plus subtile, économique, stratégique et elle peut passer presque inaperçue. L'exemple encore plus récent du Groenland, toujours avec les États-Unis, peut nous le montrer. Le Groenland est immense, peu peuplé et rattaché au Danemark, mais doté d'une large autonomie. Il est riche en ressources naturelles stratégiques, comme des minerais rares et du potentiel énergétique. Et sa position géopolitique en fait un territoire clé dans l'Arctique, entre l'Amérique du Nord, l'Europe, la Russie et la Chine. Les États-Unis s'y intéressent donc fortement aujourd'hui. Officiellement, il s'agit d'une coopération, d'un investissement pour sécuriser l'accès aux ressources, soutenir le développement économique local et accompagner la transition énergétique. Mais derrière cette aide se cache une influence réelle. Si l'économie et les infrastructures du Groenland dépendent largement de partenaires étrangers, ces choix futurs peuvent être orientés, même sans présence militaire ni action, donc à l'inverse de ce qui s'est passé au Venezuela. Ce qu'on appelle une ingérence douce, donc sans armes, sans confrontation, mais avec une réelle capacité à influencer des décisions et donc l'autonomie d'un territoire par le poids diplomatique et économique. Donc pour résumer, ces deux exemples montrent que l'ingérence peut prendre des formes très différentes. La forme visible et militaire comme au Venezuela, avec des conséquences immédiates et spectaculaires. Et la forme plus subtile et stratégique comme au Groenland, où l'influence passe par l'économie et les partenariats. Dans les deux cas, elle soulève la même question essentielle. Jusqu'où un pays peut-il agir sur le territoire d'un autre et quand est-ce que cette action devient une réelle atteinte à sa souveraineté ? L'ingérence, qu'elle soit brutale ou douce, nous rappelle que dans les relations internationales, la puissance et les intérêts économiques peuvent peser aussi fortement que les lois ou les principes moraux et que la souveraineté d'un État n'est jamais vraiment absolue.
Eh bien, merci beaucoup Louise. C'est sur ce mot de la fin que notre émission se termine. Je tenais à remercier Elliot à la régie qui nous a dépanné pour cette émission un peu exceptionnelle. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain.
Vous venez d'écouter Les Dessous de la Cité. Retrouvez nos programmes sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes les plateformes de podcast.